France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi France Musique. Je suis très heureuse de recevoir le pianiste Philippe Cassard. Bonjour Philippe Cassard.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes pianiste, mais pas seulement. Les auditeurs de France Musique vous connaissent bien, puisque tous les samedis, entre 14h et 16h, vous produisez l'émission Portrait de Famille. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour évoquer deux sorties discographiques, deux superbes enregistrements qui paraissent aujourd'hui même sous le label La Dolce Volta, deux trios de Beethoven et la 9e symphonie dans la transcription de Liszt pour de piano. Dites-moi, Philippe Cassard, quand on joue cette transcription de la 9e symphonie de Beethoven dans cette version de Liszt, on a l'impression de jouer la musique de qui ? La musique de Beethoven ou la musique de Liszt ?
De Beethoven.
De Beethoven.
Ah oui, on y reviendra, mais je veux dire, Liszt, évidemment, c'est Liszt. Mais à aucun moment, il ne profite de son avantage. Et tout l'arsenal instrumental qu'il met au service de cette transcription, il est uniquement à destination de Beethoven, qu'il adule, qu'il révère, dont il est fou amoureux, en fait.
Et on l'avait empêché, Franz Liszt, de publier cette transcription pour deux pianos, si je ne m'abuse. Il avait donc fait une version pour un seul piano. Finalement, vous connaissez aussi cette transcription pour
oui,
piano seul, Philippe.
Mais elle ne le satisfaisait pas. On ne l'a pas empêché, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas, on n'a pas publié, parce qu'il avait écrit dès 1850-51, cette transcription pour deux pianos, et tout de suite. C'est-à-dire, il avait déjà transcrit pour demain les 8 précédentes symphonies. Quand il est arrivé à la 9e, qu'il a vu l'effectif et l'énormité de l'orchestre avec chœur et soliste, il s'est dit, je peux pas pour demain, ça ne sera jamais satisfaisant. Et ça n'est que 12 ans après, en 1862, quand Breitkopf a voulu éditer toutes les symphonies, Breitkopf a demandé à Liszt, donnez-nous la 9e à demain. Liszt a dit, mais non, j'en ai une à deux pianos infiniment meilleurs. Donnez-nous une version à deux mains. Donc il a renaclé, à mon avis, un beau chèque lui a été offert, et il a envoyé à contre-cœur cette version dont il a dit de son final, transcrit donc pour deux mains, qu'il était insatisfaisant.
Même
il l'a dit lui-même, il y a un échange de lettres tout à fait savoureux entre Breitkopf et Liszt. Et on sait que Liszt l'a joué une ou deux fois, cette transcription à deux pianos avec Hanson Bülow.
D'accord. Il est né comment pour chez vous, Philippe Cassard, ce désir d'enregistrer cette 9e symphonie de Beethoven dans cette transcription pour deux pianos ?
En discutant avec Cédric Pécha, mon camarade de quatre mains et deux pianos, en 2018, quand on a pensé un petit peu au programme à venir, on a vu que évidemment 2020 était l'année Beethoven, et on s'est dit en même temps, et si on montait cette 9e ? Alors lui avait eu la chance de la travailler plusieurs années auparavant, dans ses années d'études au Conservatoire de Berlin, il l'avait monté. Donc il a gardé le premier piano, je suis au deuxième, mais enfin le travail entre les deux pianos est pratiquement identique au niveau difficulté et surtout épuisement.
On va vous écouter, Philippe Cassard, dans cet enregistrement vraiment extraordinaire. Je pèse mes mots parce qu'on ne perd rien, c'est vrai, par rapport à ce chef-d'œuvre orchestral ce qui est magnifiquement transcrit par Liszt et superbement interprété par vous, Philippe Cassard et Cédric Pechia de piano.
Thank you.
On vient d'entendre un extrait du Scherzo, deuxième mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, transcrite par Liszt. Philippe Cassard et Cédric Péchia à deux pianos. Philippe Cassard qui est avec nous pour en parler jusqu'à 18h. Il faut vraiment des doigts pour jouer ça, Philippe Cassard.
Mais pas seulement des doigts, il faut des bons poignets, il faut des bras résistants, il faut surtout être très détendu. Parce que ça, c'est une épreuve, vraiment une épreuve de force. Ce Scherzo, avec toutes les reprises... En concert, vraiment, il faut savoir aussi trouver les moments où on s'économise un tout petit peu, où on économise de l'énergie pour justement être à fond dans les passages comme ceux-là. Non, mais c'est un ensemble. Il faut d'abord être détendu, un peu de raideur, et c'est même pas la peine de continuer. Non seulement on va à la catastrophe, mais on peut avoir des tendinites. Donc il faut être très détendu et être très réactif, avoir une économie de gestes totale, c'est-à-dire aucun geste inutile. Évidemment, pas de grimaces, pas de gestes du corps ou de la tête qui accompagnent l'expression ou qui surajoutent, comme on voit tellement. Et puis, être très à l'écoute de l'autre, parce que toute la difficulté dans cette symphonie, c'est la surenchère. C'est tellement facile de jouer fort, et de jouer très fort. Et à deux, c'est pas une addition de fortissimo. C'est-à-dire, il faut créer à deux, et à deux pianos, il faut créer en fait un troisième piano fictif. Plus grand, plus long, avec plus de touches, mais il faut créer ça. Il faut pas du tout penser que c'est une addition de sons, etc. Il faut que nos personnalités se fondent en un discours parfaitement cohérent, logique, sans en même temps se renier. Cédric a une sonorité absolument sublime dans le mouvement lent, que j'aurais été peut-être pas capable de produire moi-même, vous voyez. Mais en même temps, voilà, il faut toujours être à l'écoute pour éviter la surcharge, la surenchère.
Cédric Péchia qui est au premier piano, donc vous êtes au second, Philippe Cassard. Comment vous avez défini les rôles? Cédric Péchia avait déjà joué la partition,
c'est ça. Il l'avait apprise dans ses années d'apprentissage à Berlin avec Klaus Helwig, et donc très naturellement, ça s'est fait. Voilà, ça s'est même pas discuté.
Il vous a fallu combien de temps pour monter ce programme?
Un an. En sachant que Cédric habite Berlin, moi je vis à Paris, et donc ça a été des échanges. Je suis allé souvent à Berlin, il est venu à Paris, on a travaillé. Il se trouve que j'ai deux pianos chez moi. Il a aussi deux pianos dans son atelier de musique à Berlin. Et donc on s'est vus, on a, je pense, travaillé des dizaines et des dizaines d'heures.
Est-ce que vous vous êtes référé au conducteur d'orchestre pour savoir à quel instrument Beethoven avait attribué telle ou telle mélodie, Philippe Cassard?
Oui, on avait toujours la partition d'orchestre avec nous, et c'est là qu'on s'est aperçu que Liszt lui-même avait travaillé avec la partition d'orchestre à côté de lui, parce que c'est d'une telle fidélité, mais scrupuleuse, maniaque et dévote, enfin au sens positif du terme, je veux dire, on sent que Liszt ne veut absolument pas laisser passer quoi que ce soit, tous les détails y sont, mais au point de scrupule que les paroles en allemand sont écrites dans la partition à deux pianos,
poursuivre.
Et parce que Liszt disait que c'est bien qu'on ait les mots pour pouvoir phraser en fonction de l'intonation. Du phrasé allemand, de la langue parlée allemande ou langue chantée, avec les accents forts. Donc tout le texte est écrit pour qu'on ne mette pas, par exemple, je vous dis un exemple tout à fait au hasard, le verbe weinen, pleurer, on dit pas weinen, mais weinen. Eh bien le phrasé, s'il y a deux notes, on fait pas fa-fa, on fait fa-fa. Voilà, un petit exemple comme ça. Et ça veut dire que Liszt est au plus près et en même temps, il est lui-même. C'est-à-dire qu'il déploie un arsenal de procédés pianistiques qui lui sont propres, les trémolos, les tris, les octaves, les tierces, les déplacements, les accords, etc., etc. Mais sans que jamais ça ne sonne listien dans ce que vous venez d'entendre. On entend la 9e et on l'entend sublimé par la vision spatiale de Liszt et en même temps le souci du détail de l'écriture. C'est ça qui est fascinant.
Philippe Cassard, vous êtes le discophile que l'on connaît. Vous nous faites partager ce plaisir tous les samedis sur France Musique, entre 14h et 16h. Quels sont vos enregistrements de chevet de cette 9e symphonie de Beethoven?
Alors avec Cédric, justement, on s'est posé mutuellement la question parce que on avait chacun nos références. Alors moi, j'aimais évidemment beaucoup l'enregistrement légendaire de Furtwängler, ou les enregistrements disponibles de Furtwängler, parce que pour moi, Furtwängler, c'est le roubateau. Ce que je déteste dans Beethoven, ou ce qu'on peut en faire, c'est ce côté rigide, vertical, métrique, avec des règles ridicules, on tient le tempo, enfin, tout, de choses qui ont été comme ça le produit de plusieurs traditions. Et quand on entend Furtwängler, c'est l'art de la narration, des transitions, du rubato, de la souplesse, enfin, et puis la vision. Mais il y en a bien d'autres. Je dirais que nous, on s'est rejoint sur, par exemple, des versions comme celle de Marie Sjöström, celle de Harnoncourt, magnifique, dans un tout autre genre. Mm-hmm. Mais Harnoncourt n'est pas du tout aussi rigide qu'on peut l'imaginer. Il est aussi un visionnaire et un narrateur. Karajan, les premières versions de Karajan dans les années 50 sont absolument splendides. Mais bon, il y en a beaucoup. Hein. Mais on a écouté pas mal.
On va vous écouter avec la violoncelliste Anne Gastinel et le violoniste David Grimal, extrait de ce disque qui paraît également aujourd'hui sous le label La Dolce Volta. Voici le deuxième mouvement du cinquième trio en ré majeur de Beethoven, le trio dit des esprits.
Thank you.
deuxième mouvement du trio Les Esprits de Beethoven, qui est le centre de gravité de cette pièce qui a été baptisée ainsi, puisque son deuxième mouvement empruntait un projet inabouti, quelques idées notées sur un cahier d'esquisse en 1808 pour une scène de sorcière dans un Macbeth. Nous écoutions la version toute neuve qui sort aujourd'hui, version de David Grimal, Anne Gastinel et Philippe Cassard. Philippe Cassard, elle est particulièrement étrange, cette musique, ce deuxième mouvement du trio Les Esprits de Beethoven.
Oui, bah, tous ces chromatismes, vous parlez de Macbeth, oui, voilà, le côté un peu diabolique, un peu mystérieux, lugubre, on tremble, enfin la peur, le gouffre qui s'ouvre, enfin les abîmes, oui, il y a tout ça dans cette musique. C'est à la fois très premier degré. Et en même temps, le lyrisme de Beethoven surgit comme ça au détour d'une phrase. Et c'est, en fait, il faut pas, quand on joue, il faut se laisser aussi porter par cette musique. Il faut pas en rajouter. C'est-à-dire, sinon, ça va devenir expressionniste. Elle l'est déjà pratiquement, cette musique expressionniste. C'est rare que Beethoven aille comme ça dans des choses aussi figuratives, on va dire, aussi illustratives. Si, l'orage de la pastorale. Ben, on est très proche, en vérité, hein. Les chromatismes, les coups de boutoir, les écarts entre l'ultra grave et l'ultra aigu. Voilà. Lui aussi a son arsenal. On parlait de Liszt.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
Avec Philippe Cassard cet après-midi, on va faire un petit pas de côté en vous écoutant dans la dernière sonate de Schubert. Philippe Cassard, vous avez d'ailleurs publié un essai sur Schubert. Vous connaissez bien cette musique, vous la connaissez de l'intérieur, ces sonates de Schubert. Est-ce que vous diriez qu'il y a une proximité entre l'œuvre de Schubert et celle de Beethoven ?
Ah ben, par exemple, dans le trio, puisqu'on parle de trio, dans l'opus 70 numéro 2, c'est-à-dire le trio qui suit le trio des esprits, qui est opus 70 numéro 1, dans le troisième mouvement, il y a des petits arpèges au piano dans l'extrême aigu que Schubert a repris, mais alors quasiment textuellement, il s'est pas gêné, et même dans la même tonalité, dans un impromptu, le quatrième, et dans son deuxième trio.
Thank you.
scherzo de la 21e sonate en si bémol majeur de Schubert, interprétée par Philippe Cassard, qui est avec nous pour parler de son enregistrement de la 9e symphonie de Beethoven dans la transcription pour deux pianos de Liszt, et de ce très beau disque qui réunit deux trios de Beethoven, le 5e et le 7e. Pourquoi avoir choisi ces deux trios en particulier, Philippe Cassard?
Pourquoi pas?
Et pourquoi pas? C'est une bonne réponse, ils sont
non,
très bons.
On pourra peut-être enregistrer d'autres trios, ça c'est possible. Je sais que David et Anne aimeraient qu'on enregistre d'autres trios, peut-être l'autre, le 70 numéro 2 dont je parlais tout à l'heure. Non, mais on s'est dit, voilà, on s'est fait plaisir, on avait appris tout, on a appris tous les trios de Beethoven pour cette année 2020. On a fait un premier programme en 2018, un deuxième programme en 2019. On avait la totalité des trios cette année. On va d'ailleurs faire l'intégrale début novembre à Dijon, à l'auditorium de Dijon. C'est tout un week-end, le 6 et 7 novembre, il faut venir. Il y a trois concerts, on les joue tous. Et puis à Paris, je crois qu'on le fait aussi le 7 décembre au Bouffe du Nord. Et alors non, c'est ce qu'on préfère. Et puis bon, ils sont tellement identifiés. On a longtemps hésité. On s'est dit, tiens, peut-être avec l'archiduc, on pourrait mettre un trio de jeunesse, un des trios de l'Opus 1. Ce sera peut-être pour un autre disque.
On attend avec impatience cet autre disque. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à continuer ce partenariat avec Anne Gastinel et David Grimal, avec qui vous semblez très bien vous entendre? Vous vous connaissez depuis une petite quinzaine d'années.
Oui, voilà. Je pense que si on ne s'entendait pas, on ne jouerait pas ensemble. C'est affiné au fil des années, évidemment. Vous savez, ça a commencé assez timidement. On a joué comme ça de temps en temps à partir de 2003-2004. Et d'ailleurs, on est incapable de se souvenir exactement le moment où on a joué ensemble. Et puis, de quelques concerts, c'est devenu un tout petit peu plus important. Le Wigmore Hall s'est intéressé à nous. On a joué plusieurs fois au Wigmore Hall, qui est quand même une salle magnifique pour la musique de chambre. Et donc, on a commencé à monter plusieurs trios, les deux Schubert, et puis cette intégrale qui s'est dessinée comme ça vers fin 2017, début 2018. Non, le travail fait que l'amitié se renforce ou non. Et là, dans ce cas-là, elle s'est renforcée. Parce que l'amitié, c'est aussi savoir s'écouter, savoir échanger, savoir s'inspirer, se nourrir des idées des autres, les écouter beaucoup, jouer, et puis s'estimer mutuellement, on s'estime beaucoup. Je trouve que nos sonorités, nos personnalités sont très complémentaires, et on n'abdique jamais de soi-même, tout en écoutant beaucoup les autres et en essayant de se fondre.
Sont tous ces paramètres alors qui font que l'on sait qu'on a trouvé les bons partenaires de musique
sûrement.
De chambre.
Moi, j'aime beaucoup la classe d'Anne Gastinel. Je trouve que c'est une violoncelliste de grande classe dans une époque où on nous balance comme ça par grands médias des violoncellistes grimaciers qui en font des caisses, enfin des tonnes et des tonnes et des tonnes, et ça c'est bien dommage, je trouve. Et avec Anne, il suffit de fermer les yeux et d'écouter, et on s'aperçoit de la beauté de son phrasé, de sa sonorité, de la tenue de son archet. Et puis David, c'est cette personnalité artiste, poète, fantasque, toujours dans la recherche, dans les idées, dans le partage de ses idées. Alors moi j'adore jouer avec des personnes de ce talent et de cette richesse.
On va vous écouter dans le final du trio L'Archiduc, 7e trio de Beethoven, dédié à l'archiduc Rodolphe, l'un des rares élèves de Beethoven qui n'était pourtant pas particulièrement doué. Il est intéressant aussi de relever...
Mais il payait bien.
Voilà.
Et on sait que Beethoven était très cher comme professeur.
Et il est intéressant de relever la façon dont Beethoven annonce à son mécène et élève la composition de cette œuvre. Donc il va lui dire: quand votre Altesse impériale avait un doigt qui lui faisait mal, je me suis mis assidûment au travail et le fruit est maintenant un trio de plus pour piano. Thank you. Du 7e trio en si bémol majeur de Beethoven, Philippe Cassaro piano, David Grimal au violon et Anne Gastinel au violoncelle.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
Philippe Cassar, cette redoutable 9e symphonie de Beethoven transcrite par Liszt, vous avez choisi de l'enregistrer avec le pianiste franco-suisse Cédric Pecha. Vous m'avez dit qu'il fallait bien dire Pecha,
c'est ça, voilà, à l'italienne.
Vous aviez déjà enregistré ensemble des Schubert à quatre mains.
Il y a six ans,
oui, exactement.
C'est un disque qui a eu beaucoup de succès, d'ailleurs. Je m'en étais réjoui parce qu'on avait, à la sonate en La majeure, la 959, l'avant-dernière sonate de Schubert, j'avais demandé à Cédric d'ajouter les trois grandes pièces à quatre mains de 1828, année où il a composé aussi cette avant-dernière sonate. Et donc, ce qui faisait un programme très copieux avec le Lebensturm, la fantaisie, la fameuse fantaisie en fa mineur et le délicieux rondo. qui est une de ses toutes dernières œuvres, enfin qui date vraiment de la fin de l'été 1828, trois mois avant sa mort. Et c'est un disque qui avait été choc de l'année, Classica, enfin qui avait eu un bel accueil, et j'étais heureux parce qu'en même temps il témoignait du travail avec Cédric que nous avons depuis maintenant 7-8 ans, et on a pas mal de répertoires, on a d'autres projets, on voudrait monter le Sacre du Printemps de Stravinsky, les Visions de l'Amen de Messiaen de piano. Alors ça sont des œuvres très importantes.
Là, vous évoluez un peu dans votre répertoire, puisque maintenant vous êtes à deux pianos.
Voilà.
C'est quoi la différence entre jouer à quatre mains et jouer à deux pianos? Jouer à quatre mains, on se voit, on peut.
C'est beaucoup plus difficile. Non, on se voit pas du tout. Oh là 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 là. Le quatre mains, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est ce qu'il y a de plus difficile. On n'est pas assis au bon endroit à quatre mains. Vous n'êtes pas assis devant votre instrument. Vous êtes assis à côté. Enfin, de côté. Donc vous n'entendez déjà pas le même son que quand vous êtes central. Vos deux oreilles ne captent pas la même chose. Et puis, il n'y en a qu'un qui a accès à la pédale ou aux pédales. Donc ça, déjà, c'est pour la personne qui est au-dessus, c'est niette pour la pédale.
C'est plus confortable d'avoir chacun son instrument.
Mais quand vous êtes à deux pianos, vous vous voyez, vous respirez ensemble, vous êtes assis normalement, vous pouvez jouer normalement à quatre mains. Déjà, et puis la main de celui qui est au-dessus, la main gauche, gêne la main droite de celui qui est en bas, etc. Donc avant d'être parfaitement à l'aise et de penser à la musique et de vraiment réfléchir à une interprétation, il faut déjà que, logistiquement parlant, vous fassiez beaucoup d'efforts. Ensuite, c'est un régal, évidemment, c'est un plaisir.
Vous avez choisi d'enregistrer sur deux pianos Bechstein. Pourquoi,
fabuleux.
Pourquoi ce choix de choisir des Bechstein? Pourquoi pas des deux grands Steinway de concert?
D'abord parce que Bechstein nous a proposé. C'est venu un petit peu de chez eux. On va d'ailleurs jouer dans leur série de concerts à la Concerthaus de Berlin le 13 novembre, la veille du concert de Paris. Et ils avaient deux instruments vraiment prodigieux qui servaient cette musique. Savoir que Liszt a joué sur des Bechstein aussi, ça c'était important. Ils en exposent un fièrement dans leur showroom à Berlin. Et puis on a eu un réglage aux petits soins de Torben Garlin, qui est un magnifique accordeur technicien. Et je trouve aussi que la prise de son, il faut lui rendre cette justice, la prise de son de Johannes Kammann, parce qu'on a enregistré ça à Berlin au studio Teldex, rend justice à l'œuvre. Le côté très spatial de la transcription de Liszt est rendu aussi par une prise de son aérée où rien ne manque, on entend absolument tout. Et en même temps, il y a de l'espace, il y a de l'air, il y a un peu de résonance, mais tout à fait naturelle. Et Johannes Kammann, c'est le preneur de son habituel de Cédric Pécha quand il fait ses disques en solo.
On va écouter justement un extrait de ce disque à nouveau, avec le final dans cette transcription de Liszt, un final qui est semé d'embûches, que vous évitez très adroitement. Que vous évitez adroitement, Philippe Cassard avec Cédric Pécha. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe en gros dans cette musique? Qu'est-ce qui la rend si difficile, Philippe Cassard?
Ah ben là, c'est un déferlement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être très très près. On a évidemment des pages un tout petit peu plus tranquilles, mais il y a la fugue au milieu, où c'est des notes répétées pendant 5 pages, staccato. Et puis, il y a des choses, a priori, on ne pense pas que c'est difficile, mais il y a toute une série d'unissons où on joue les mêmes notes à deux pianos. Donc, il faut être très 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 ensemble. Alors ça, je peux vous dire qu'on a fait plusieurs prises pour être absolument ensemble, parce que les ta-da, 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 ça peut pas marcher à deux pianos.
Thank you.
Cédric Pécha et Philippe Cassard à deux pianos dans le final de la 9e symphonie de Beethoven, dans cette transcription de Liszt. Philippe Cassard, qui sont vos interprètes de chevet de la musique de Beethoven ?
Oh là là, mon Dieu, il y en a tellement. Schnabel, Kempf, certains Pollini, Lefauve et Hansness, Andras Schiff, que j'adore. Andras Schiff, c'est un de mes dieux. Peraya, Brendel. Oh là là, mon Dieu, il y en a tellement, tellement. Mais c'est aussi le génie de Beethoven, d'avoir des interprètes comme ça, aussi nombreux pour servir sa musique. Hein, on a... Non, c'est pas ça qui manque.
Quelques concerts à venir avec cette 9e de Beethoven, absolument incroyable, incroyablement
beau, hein,
épuisante.
Ah, le public est... Les fois où on l'a joué en public, là, cette année, avant les confinements, etc., ou juste après, ils sont médusés parce que, non pas parce que nous faisons, mais par la musique. Ils viennent après en disant, mais on redécouvre cette symphonie. On entend des détails d'écriture que l'orchestre, en fait, noie un petit peu. Et ça, c'est tout toute la beauté et tout le génie de cette transcription listienne. Alors, on va la jouer donc à Berlin, à Paris,
voilà,
13 et 14 novembre.
De Berlin, le 13 novembre, absolument.
Voilà.
Au Collège des Bernardins,
oui,
à Paris,
très
le 14
lieu,
novembre.
À 16h30. Donc
aux grandes...
Voilà. Avant le confinement de 21h, le couvre-feu.
Les grandes heures de Saint-Émilion,
oui,
à Saint-Émilion, bien
19
sûr,
novembre.
Le 19 novembre, vous connaissez bien vos dates. À l'Arsenal de Metz, le 10 décembre, à la Cité de la Musique et de la Danse de Soissons, le 20 décembre. On va se quitter en vous écoutant dans un enregistrement réalisé en mars 1994, Philippe Cassard.
Oh, j'avais des cheveux à cette époque-là.
Vous avez surtout succombé au charme de la valse, avec entre autres ce Moskovski. En quelques mots...
Professeur de perlemutter.
Voilà, absolument. Qu'est-ce qu'il a, ce compositeur qui est bien connu des pianistes, assez peu du grand public,
finalement. Les études magnifiques. Itsuko Hirose a fait un très beau disque. Oui, les bisques, Horowitz jouait, Étincelles, Papillon, enfin, c'est des pièces de brillantes. Et Moskovski était un fabuleux pianiste, très grand professeur, qui est venu à Paris, qui s'est installé à Paris, un Polonais d'origine, s'est installé à Paris, il a enseigné au conservatoire, et puis, très curieusement, sa carrière s'est délitée. Il écrivait plutôt des pièces, voilà, faciles, brillantes, un peu du passé. Et donc, il est mort dans une relative indigence.
Mais on vous écoute jouer cette valse de Moskovski. Merci beaucoup, Philippe Cassard, d'avoir
Aurélie,
passé cette heure en notre
m'avoir
compagnie.
Reçu.
La valse en mi majeur de Moskovski, interprétée par Philippe Cassard.
J'avais des doigts à cette époque-là.
Mais vous en avez toujours, Philippe Cassard. Merci pour ces deux très beaux disques. La 9e de Beethoven, transcrite par Liszt à deux pianos avec Cédric Péchat. Et les deux trios de Beethoven, le 5e, le trio Les Esprits, et également le trio L'Archiduc, le 7e trio de Beethoven. Grand merci également à toute l'équipe du jour du Van Beethoven. Cécile Bonnet-Desclostres pour la préparation, Antoine Courtin pour la réalisation et Maël Larfassor pour la prise de son. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les références discographiques des œuvres que nous avons écoutées sur le site de France Musique à la page de l'émission Le Van Beethoven. Grand merci Philippe Cassard et on vous retrouve demain à 14h.
14h sans son François dans des concerts incroyables.
Et le 24 octobre.
Ah, c'est la 200e.
La 200e de Portrait de Famille.
Alors là, j'ai pas beaucoup de temps, mais on va entendre les voix de nos grands interprètes. Toscanini fulminant, La Callas dans une très belle interview, Cortot qui raconte sa rencontre avec Cosima Wagner, rendez-vous compte.
Eh ben, on sera à l'écoute. Merci Philippe Cassard.
À réécouter sur francemusique.fr.